merci de nous avoir. On va essayer de commencer à l'heure, parce qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes à dire ce soir. Alors, bienvenue, merci d'être là, aussi nombreux. On voit que c'est un thème, l'Apocalypse, qui ne fait pas que peur, mais qui suscite de l'intérêt. Alors, merci à Pierre Amé d'être là. Je vais quand même le présenter. Et c'est utile. Je ne suis pas sûre, mais bon. Pierre Amé, alors, il a été notre pasteur de l'Entre-deux-Lacs pendant 24 ans. On bénéficie encore aujourd'hui de nombreuses choses. Il a fondé Seigneur en mission en 2004. Voilà, il fait beaucoup de choses, des conférences, des séminaires que peut-être vous avez déjà suivis, sur l'Apocalypse, sur l'occultisme, le New Age, et beaucoup de thèmes encore. On veut dire qu'il a un parcours de vie très dense, que par sa formation de théologien, d'ingénieur, je crois que ça a été tout ça une richesse pour l'Église, parce que ça lui permet d'apporter la parole de Dieu aussi sous différents angles, vraiment qu'il nous enrichisse. Et puis, voilà, l'Apocalypse, je ne sais pas si vous lisez chaque matin l'Apocalypse, j'en doute, ouais, j'en doute. Alors, on peut quand même dire que c'est un livre qui n'est pas toujours limpide, avec des symboles, des images qui se superposent, et parfois, oui, ça peut faire peur. Les différentes interprétations qu'on en a peuvent faire peur aussi, selon ce qu'on entend aussi. Et puis, pour avoir discuté un petit peu avec Pierre Amé, c'est pas du tout, je crois, c'est l'angle qu'il va porter ce soir. Mais c'est vrai, l'Apocalypse, c'est un livre qui est important pour notre foi, qui nous aide aussi à discerner les temps, qui nous aide à résister au mal sous différentes formes. Et aussi, c'est dans ce livre qu'on voit la victoire de l'agneau, la victoire finale de l'agneau. Donc, un livre qu'on se réjouit ce soir d'approfondir. Donc, un grand merci, Pierre, d'être venu. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu Réformé. Mais justement, j'ai lu ça juste avant de venir. Petite intro. Parce que vous voyez l'image, il y a l'apôtre Jean qui est un petit peu dépité. Puis, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Saint-Jean ? Il dit, c'est toujours pareil, quand je regarde de trop PMM TV, je me mets à écrire l'Apocalypse. Ah, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, hein, si c'est vrai, etc. Voilà, juste pour le cadre, il y aura environ une heure d'études bibliques, et après 30 minutes, on pourra poser les questions que l'on souhaite à Pierre. Voilà. Bienvenue à chacun et à chacune.
Voilà, merci beaucoup pour cette introduction chaleureuse. Comme je l'ai dit à plusieurs, vous m'entendez bien? Alors, vous manifestez, je ne peux quand même pas être collé complètement au micro. Oui, mais... Je ne sais pas manger le micro quand même. Mais voilà, si jamais vous n'entendez pas bien, s'il vous plaît, vous levez la main. Et si c'est trop long, vous levez les deux mains. Comme ça, les choses sont claires. Maintenant, j'ai l'impression d'être dans un camp de catéchumènes, dans un camp de sport. Je vois tant d'anciens catéchumènes qui sont là, et on vivait effectivement à l'époque toutes sortes de camps, mais entre autres un camp qu'on appelait Bible et Sport à Pâques. On faisait alors tous les après-midi du ski, de la randonnée, mais tous les matins on étudiait la Bible. Et d'ailleurs, ils m'ont à l'œil parce qu'ils m'ont dit, on t'a déjà entendu sur l'Apocalypse au moins une ou deux fois, donc on va voir si tu nous dis toujours la même chose. Maintenant, j'ai une relation très particulière avec ce livre de l'Apocalypse. Pourquoi ? Peu avant 18 ans, j'étais chrétien protestant, sans autre, j'avais fait mon caquet, sans plus, et j'étais dans un camp à Vienne, où là je dois dire que le Seigneur a bouleversé ma vie. Et Quand je suis rentré, nous étions encore à l'époque avec mes parents concierges au temple indépendant, qui est la paroisse Farel maintenant, et on habite au presbytère, sous le toit, tout en haut. Et je me souviens m'être agenouillé au pied de mon lit, et je vous le dis, j'ai comme été ravi quelque part ailleurs que dans cette chambre. Et après, je ne savais pas du tout ce qu'était l'Esprit Saint, je ne savais pas si c'était qu'une onction. J'étais comme rempli et baigné du Seigneur, et puis je me suis dit, c'était tard dans la nuit, je me suis dit, je vais prendre ma Bible du cathèque. Et puis je trouvais qu'elle était quand même assez épaisse, donc j'ai décidé de commencer par la fin. J'ai lu toute la nuit l'Apocalypse. Et j'étais très impacté par, au fond, les derniers versets. Ça va aller comme ça ? C'est mieux ? Allez, crier. Bon, ça va maintenant ? Allez, c'est mieux. Je ne sais pas comment j'arriverai à lire les notes, mais on verra. Alors, j'ai été impacté par la fin de l'Apocalypse, c'est-à-dire le trône de Dieu, d'où coule un fleuve, et ce fleuve a des arbres qui poussent pour la guérison des nations. Et en fait, l'Apocalypse, c'est le nouveau jardin d'Éden. On commence la Bible avec le jardin d'Éden, en Genèse 2 et 3, et puis, on termine avec un nouveau jardin d'Éden, un fleuve qui coule avec des arbres pour la guérison des nations. Et moi, je suis, depuis ce jour-là, ça fait quand même longtemps, je suis en marche comme le peuple dans le désert, avec des fois des moments difficiles, des moments glorieux, mais je marche vers ce jardin d'Éden. C'est le moteur de ma vie. C'est pourquoi... Et si vous reteniez qu'une seule chose de l'Apocalypse, vous pourriez retenir cela. C'est pour ça que j'ai distribué un chant qu'on chantait dans les années 70 lors du renouveau charismatique. Certains peut-être s'en souviennent. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? Ouh, oui. Oh, pas beaucoup. Alors... On va te chanter. Est-ce que j'entends ? Oui, oui. Ah ben, je chanterai tout seul, ou presque. Mais il est facile. Alors, vous chantez fort, hein ? Avec moi. Alors, on y va. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je l'Apocalypse nous emmène en fait depuis la croix et la résurrection jusque dans ce royaume des cieux. Maintenant, la prophétie, le mot prophétéio en grec n'a pas été traduit. Et c'est quelque part très bien. Je trouve des fois dommage qu'on remplace le mot prophète par inspiré de Dieu. Oui, c'est très bien. Mais prophète, c'est les prophètes. D'ailleurs, on dit la parole de Dieu. Or, la prophétie, c'est littéralement, en grec, l'éclairage lumineux de Dieu. C'est Dieu qui éclaire de sa lumière, en fait, le présent, le passé et l'avenir. Le présent est la prophétie est présente naturellement dans toute la parole de Dieu, mais évidemment aussi comme un don spirituel. 1 Corinthiens 12 dit qu'il fait partie des dons spirituels. Et il est dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour soit vraiment votre moteur, tout le Corinthiens 13, mais après il est dit aspirez aux dons spirituels et en particulier à celui de prophétie. Alors attention, il ne s'agit pas de dire tu dois vendre ton piano ou bien tu dois quitter ton métier. Mais c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai appris dans mes études de théologie que la prédication est une prophétie. Ça veut dire, on dit la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et cette parole, exceptionnellement, peut concerner l'avenir. Moi, je connais vraiment de vrais prophètes, mais qui ne sont pas en train de dire que le réveil va de toute façon arriver dans ta maison, mais qui disent des choses qui sont importantes pour nos vies. Maintenant, il est dit aussi le présent. Je m'explique un peu. Ça veut dire que, par exemple, quand Samuel doit rencontrer Saül, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que le prophète Samuel va justement dire des choses qui concernent le présent. Il va dire à Saül, par exemple, en 1 Samuel 10, il prend une fiole d'huile qui répand sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Et puis il ajoute « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin. Ils te diront « Les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. » Et maintenant, il continue « De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevaux, l'autre trois miches de pain et l'autre une houppe de vin. Ils te salueront et te donneront deux pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel s'empara de toi et prophétisera, mais tu attendras ces jours jusqu'à ce que je vienne pour offrir l'Holocauste et nous savons qu'il n'a pas attendu ses jours. Il a eu peur des Philistins. Donc voilà un élément prophétique pour le moment présent. Nous pensons aussi à Paul, bien sûr, dans le livre des Actes, au chapitre 27, verset 23. Ils sont en pleine tempête et Paul a la visite d'un ange qui lui dit exactement ce qui va arriver. Qu'ils doivent manger, ensuite tout jeter par-dessus bord, mais que tous seront sauvés. Voilà des prophéties, je dirais, pour le moment présent. Mais ces prophéties, on le comprend bien, c'est l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, est prophétique. Et puis, ça peut arriver que ça soit une explication de quelque chose qu'on ne comprend pas et qui vient du passé. C'est le cas, par exemple, dans 2 Samuel 21, il y a une famine de 3 ans. Et David cherche la face de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que à l'époque de David, l'obéissance au commandement, l'obéissance à Dieu, était une source quand même de grande bénédiction pour les familles, pour les troupeaux, pour la terre, pour une écologie vraiment extraordinaire. Et donc, David ne comprend pas et il a dit qu'il s'approcha de Dieu et Dieu lui dit c'est à cause de Saül parce que Saül a massacré les Gabaonites. Souvenez-vous, quand Josué était dans la conquête de la terre promise, les Gabaonites se sont déguisés en faisant croire qu'ils venaient de très loin et qu'ils demandaient vraiment la protection. En fait, ils mentaient. Mais Josué s'est engagé et a respecté. Par contre, Saül a cru bon de massacrer les Gabaonites. Et donc, c'est des années et des années plus tard que Dieu dit à David, cette famine de 3 ans, c'est à cause du crime de Saül. Voilà donc quelque chose du passé. Et bien sûr, il y a beaucoup aussi du présent, c'est-à-dire du futur.
pardon, du futur.
Alors, c'est le cas, bien sûr, de l'Apocalypse, mais il y a dans
l'Ancien Testament,
il y a toute une série de prophéties au sujet de Jésus. Vous le savez bien, dans Ésaïe, la jeune fille enfantera, Ésaïe 53, qui est une description presque parfaite de la vie de Jésus, au point qu'on a pensé que c'était obligatoirement écrit après Jésus. Non, les manuscrits étaient formels pour dire que ça date d'au moins 100 ans. Il va naître à Bethléem, il va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On va lui donner du vinaigre. Toute sa vie, en fait, il y a une dizaine de prophéties très très claires dans l'Ancien Testament qui parlent de la vie de Jésus. Et il y a un livre que vous connaissez peut-être de Lee Strobel, Jésus l'enquête. Cet homme n'était pas chrétien et était un journaliste d'investigation pour les grands criminels à Chicago. Et donc il avait l'habitude d'investir, de faire des enquêtes. Il ne croyait pas en Jésus, mais il a décidé de mener une enquête par rapport à tous ces textes de l'Ancien Testament pour savoir finalement si c'était vrai. Cet homme a trouvé la foi et il démontre, en fait, il y a même un film qui existe, il démontre que ce n'était pas possible puisqu'on a la certitude que Jésus a vécu. Même des historiens juifs reconnaissent même qu'en fait Jésus est ressuscité mais qu'il serait mort après puisque ce n'était qu'un homme. Mais ça veut dire que l'attestation de la vie de Jésus, je dirais, il n'y a que Michel Onfray en danger de conversion à mon avis qui nie l'existence même de Jésus. Il est en grand danger de conversion car tous ceux qui luttent de cette manière contre la vérité sont... Cet homme, quelque part, il cherche Dieu et il faut prier pour ces hommes. Vous imaginez, Michel Onfray en patinoire, ça attirerait du monde. Et donc, Lee Strobel a dit c'est impossible d'avoir créé un être humain qui accomplisse toutes ces prophéties. C'est pas possible. C'est statistiquement, c'est mathématiquement impossible. Donc, il a décidé de devenir chrétien et d'écrire ce livre. Jésus l'enquête. Donc, aussi très rapidement, nous avons des prophéties dans l'Ancien Testament absolument magnifiques, par exemple, sur le retour des Juifs. C'est incontestable. Ésaïe 60 nous le dit très bien. Qui sont ceux-là, Ésaïe 60, verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Et les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes fils avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu. C'est incontestable. Je dirais, on peut être pour, on peut être contre. L'antisémitisme monte, vous le savez, d'une manière incroyable. Mais c'est un fait historique que le peuple d'Israël, d'ailleurs, est un des rares peuples au monde qui a gardé son identité malgré 2000 ans de séparation de leur pays. On a même découvert au Maroc, alors ça date déjà de 50 ou 60 ans, mais des communautés où ils parlaient l'araméen de Jésus. C'est une communauté juive qui avait migré là-bas et qui était restée dans leur tradition et dans leur langue. Maintenant, aujourd'hui, ça ne serait plus vraiment possible. Et puis d'autre part, la prophétie de Zacharie au chapitre 12, verset 3, que vous connaissez très bien, quand il est dit que Jérusalem sera une pierre lourde à soulever pour tous les peuples et que toutes les nations se rassembleront pour détruire Israël. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une vérité mondiale. Jérusalem, depuis tant et tant d'années, est véritablement le problème numéro un, on peut dire, de notre monde, malgré hélas toutes les guerres qui ont lieu en ce moment, mais on sait que le Moyen-Orient, c'est presque insoluble. Et la Bible dit, Jérusalem sera une pierre lourde à soulever pour tous les peuples et toutes les nations, un jour, se rassembleront pour détruire Israël. Maintenant, il y a bien sûr toutes les prophéties de Jésus qui concernent la fin des temps. Et là, nous y reviendrons quand on travaillera la question des sceaux, des trompettes et des coups. Donc, il s'agit de Matthieu 24 et de Luc 21. Maintenant, pour prendre vraiment le livre de l'Apocalypse, il faut savoir que Jean a écrit l'Évangile dans les années environ 80 et qu'il a écrit les trois lettres, les épîtres de Jean, aux environs de 86 et l'Apocalypse aux environs de 98. On n'a pas à se battre sur des deux ou trois ans, mais il faut savoir quand même que les épîtres ont été écrites, les épîtres de Paul, avant les évangiles. Les épîtres commencent, on peut dire, déjà dès la 55-60, et les évangiles ont été, les trois évangiles ont été écrits avant la destruction de Jérusalem en 70 par Titus sous Vespasien, mais Jean, lui, et nous allons le voir encore, a écrit en fait ses lettres et l'Apocalypse à la fin de sa vie. D'autre part, on parle du canon des Écritures. Il faut savoir que ça a été assez long pour que l'Église universelle écuménique, lors des grands conciles encore écuméniques, décide quels sont les livres vraiment qui font partie du canon de l'Écriture. Et ça, on l'oublie parfois. La Bible n'est pas tombée du ciel comme ça. Il a fallu discuter parce que nous avons des écrits qui datent pratiquement du temps des apôtres et qui ressemblent beaucoup à nos évangiles, beaucoup à nos épîtres. Et on peut comprendre que l'Église a eu besoin d'un certain nombre de critères très précis, en général des apôtres qui avaient vécu avec Jésus, ou l'apôtre Paul, bien sûr, et ou Luc, évidemment, qui a été aussi en mission et qui a fait des recherches exactes, comme le dit l'Évangile. Or, ce n'est qu'en 397 que le Concile de Carthage, en Amérique du Nord, a reconnu officiellement le livre de l'Apocalypse. Et ça a été confirmé par la suite, même au temps de la Réformation et de la Contre-Réformation, où des fois certains mettaient en doute. Il faut savoir que Calvin n'a jamais commenté l'Apocalypse. Je ne sais pas, on lui posera la question un jour, mais est-ce que ça veut dire qu'en ce temps-là, on mettait peut-être parfois en doute ce livre un peu difficile à comprendre, il est vrai. Maintenant, ce qui est très bouleversant, c'est que Irénée de Lyon a été le deuxième évêque de Lyon en l'an 177. Il a remplacé l'évêque Potin, qui était le premier évêque, qui est mort martyr en 177. Et voilà Irénée de Lyon qui commence son ministère à Lyon et il a envoyé des évangélistes à Besançon. Et tout cela est attesté dans l'histoire ecclésiastique de Zède et d'autres, de Zède de Césarée. Donc ça veut dire que l'évangile est arrivé en France, certains pensent même que déjà, peut-être l'apôtre Paul même, mais très tôt. Or, pourquoi je parle d'Irénée de Lyon ? Parce que lui est mort martyr en 202 sous Septime Sévère, mais il a reconnu très tôt que l'Apocalypse était un livre inspiré. Et pourquoi ? Parce que Irénée de Lyon est né et a vécu à Smyrne. Et nous reparlerons de cette église de Smyrne. Or, qui était évêque de Smyrne ? C'est Polycarpe. Et Polycarpe est célèbre dans toute l'histoire ecclésiastique. Pourquoi ? Parce que le martyre de Polycarpe en 160 a été écrit partout par tous les historiens. Cet homme de 86 ans qu'on est allé chercher, il est en dehors de la ville pour l'amener au stade où ils avaient dressé un bûcher. Et l'officier romain est allé, ils sont allés plusieurs en armes. Ils ont trouvé ce pauvre homme qui était à genoux, qui priait et qui a demandé encore un peu de temps pour prier. Et ils l'ont amené au stade. et le stade était rempli, et ils l'ont mis sur le bûcher, et l'officier romain a dit, « Dis, César est Seigneur et tu es libre. » Il a dit, « Non, Jésus est Seigneur, je le sers depuis tant d'années. » Et ils l'ont brûlé. Or, Irénée a vécu au moins une trentaine d'années aux côtés de Polycarpe. Mais Polycarpe a reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean. Vous comprenez maintenant ? Ça veut dire que la lettre que nous lirons tout à l'heure, la lettre à Smyrne, qui est une des deux seules églises parfaites, selon les lettres de l'Apocalypse, ça nous dit quelque chose de très précieux. Ça nous plonge dans l'histoire réelle de l'Apocalypse. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très bouleversant, je vous l'ai dit, de penser que l'Apocalypse s'enracine d'abord profondément dans l'histoire au travers de Smyrne, au travers de Polycarpe, au travers d'Irénée de Lyon. Alors voilà, il est temps. Quelle heure est-il ?
25.
Ah, c'est bien. J'ai dit 8h30 maximum pour l'introduction. Donc, ça peut aller. Voilà, alors, nous allons entrer de plein pied dans ce magnifique livre de l'Apocalypse en marche vers ce jardin d'Éden qui nous attend, vers ce royaume des cieux. Et j'aurai l'occasion de partager encore d'autres espérances qu'on trouve dans la parole de Dieu quand on parlera au fil du texte, bien sûr, du millénium, du retour de Jésus, bien sûr, de l'Antichrist. Mais commençons par le début. Révélation, donc Apocalypse, ça veut dire loin de ce qui est caché, vous voyez ? C'est donc pas quelque chose d'impensable, c'est apo, loin, calypto, caché. Donc c'est une révélation, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est d'abord une bonne nouvelle. La preuve, c'est la fin. Et quand le veut, il monte, notre humanité va vers la fin. C'est quand on travaillera la question des sauts, des trompettes, je vous parlerai de deux, trois livres qui, sans être chrétiens, disent « nous allons vers une fin ». C'est quelque chose de très nouveau dans notre humanité d'entendre ici et là des analystes dire « au fond, alors que pendant tant d'années, il n'y a que le progrès qui dominait, on était absolument sûr qu'on allait résoudre tous les problèmes avec la technologie, et on se rend compte tout à coup que nous sommes un peu dépassés par toutes sortes de phénomènes et que la fin de l'humanité n'est pas simplement quelque chose d'absolument irréel. J'y reviendrai. Alors, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, c'est sûr que la fin des temps commence avec la croix et la résurrection. Ça, c'est très clair, on le trouve à plusieurs endroits dans l'Écriture. Nous sommes dans les temps derniers. Vous avez étudié avec Frédéric Hamann le livre de l'Hébreu, le livre des Hébreux, et ça commence par dire que nous sommes dans les derniers temps. Et les apôtres l'ont dit aussi. Mais ça veut quand même dire qu'avec l'Apocalypse, nous sommes en chemin, et que nous sommes quand même plus loin que le temps des apôtres. Ça, c'est une réalité, d'autant plus qu'on sait qu'on va vers une fin. Alors, ne comptez pas sur moi pour donner des dates. Il y a 60 ans que j'étudie l'Apocalypse, toutes sortes de livres, des choses, à dormir debout, je ne suis pas d'accord avec cela. Maintenant, dire que ça va encore durer des centaines d'années, eh bien, j'espère que non. Alors maintenant, il faut faire attention, surtout pour les vieilles personnes comme moi, parce que j'entends beaucoup de personnes âgées qui disent « Ah, vraiment, nous sommes tout près de l'enlèvement de l'Église », parce qu'en fait, elles n'ont pas envie d'aller dans un home. Elles n'ont pas envie de souffrir. Donc, disent « Seigneur, reviens vite, s'il te plaît, reviens vite, je n'ai pas envie d'être malade à l'hôpital et dans un home. » Donc ça ne doit pas être quelque chose qui nous pousse. En même temps, le livre de l'Apocalypse se termine aussi par Maranatha, c'est-à-dire le Seigneur vient, et c'est aussi une déclaration, viens Seigneur. À la fois Maranatha, le Seigneur vient, et vient comme un cri du cœur, le cri de l'Église, qu'on a envie de rencontrer le Seigneur, envie d'être avec lui. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ pour ceux qui l'ont vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Comme je l'ai dit, on trouve cela chez les apôtres, aussi dans l'épître aux Hébreux. Et puis il continue. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce, vous voyez, ça résonne déjà, l'église de Smyrne, René de Lyon, Polycarpe, évêque de Smyrne, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient. Alors, on trouvera, par exemple, au chapitre 16, verset 5, celui qui était et qui est. C'est plus marqué et qui vient. Donc, il va revenir dans l'Apocalypse. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, il est encore question de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, a eu la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Quelle belle confession de foi. Mais aussi, quelle importance il est donné. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et là, je fais un petit aparté. En tant qu'ingénieur, je me suis une fois posé la question, pourquoi est-ce qu'il avait fallu un tabernacle dans le désert? Parce que Dieu pouvait parler à Jacob qui dormait sur une pierre. Il n'y a pas de problème. Dieu peut parler à qui il veut et quand il veut. Il n'a pas besoin d'un tabernacle. Et le tabernacle, c'est un bijou de technologie. C'est la tente du Sirtnir avant l'heure. Ça se démonte au coup de sifflet, ça se remonte, ça se transporte. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a fallu tous les corps de métier pour construire le tabernacle. Tout le monde a participé. Le but, c'était d'expliquer au peuple ce qu'était un prêtre. Alors, le prêtre, c'est celui qui va devant Dieu et qui reçoit les instructions pour le peuple d'Israël et qui reçoit les instructions pour transformer un peuple d'esclaves dans un des pays les plus avancés, on pourrait dire, de presque de tous les temps. Au temps de Salomon, la reine de Saba, qui en fait, et c'est démontré maintenant, la reine Hatshepsut, la pharaon Hatshepsut, qui va à Jérusalem, et ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ici? On n'a jamais vu un pays comme celui-ci, avec son organisation, ses cultes, la culture, et puis évidemment, même son armée, enfin tout, c'est quelque chose qui attirait les gens de partout. C'était le projet de Dieu d'avoir un peuple messie sur la terre. Or, le tabernacle, dans le Nouveau Testament, il est enlevé dans les cieux. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux. Et donc, j'en ai déduit ceci. C'est qu'un peuple de sacrificateurs, ça veut dire que vous êtes tous prêtresses et prêtres. N'ayons pas peur du mot. Ne nous laissons pas voler le vocabulaire par les occultistes et ceux qui sont dans le satanisme. Nous sommes un peuple de prêtres et de prêtresses. Et c'est fondamental. Ce qui est dommage pour moi, ça veut dire que Dieu a besoin de tout le monde, non pas seulement pour ranger les chaises à l'église, mais tout le monde comme prêtre. Vous êtes prêtre et prêtresse là où vous travaillez. Vous êtes prêtre et prêtresse là où vous vivez. Vous êtes prêtre et prêtresse partout où vous allez. Et ça veut dire que vous allez dans votre tabernacle personnel devant notre Dieu pour recevoir les instructions afin de développer une ferme, l'industrie, les vignes, tout ce que vous voulez. C'est ça le message profond que nous avons. Malheureusement, Catherine, la maman de Constantin le Grand en 312, oui, c'est là, on parle de la conversion de Constantin le Grand en 312, mais Catherine va en Israël aux environs de 320. Et elle va dire, mais c'est où que Jésus est né? Donc lui montre, c'est ici, voilà, c'est pas compliqué. La mémoire sur, sur 300 ans, c'est rien du tout. Surtout à l'époque où on avait de la mémoire et où on transmettait des choses. Et là, elle fait construire une sorte de cathédrale basée sur le tabernacle. Pour moi, c'est une erreur. Ça veut dire, et elle fait la même chose au tombeau du Christ. Elle fait construire, non plus comme les croyants qui agrandissaient leur maison avec le dôme, oikodoméos, n'est-ce pas, là, c'est-à-dire ils accueillaient les églises, étaient des églises de maison, pas à cause de la persécution, c'est une erreur de le penser, mais simplement ils se réunissaient dans des maisons et parfois ils faisaient de grands rassemblements, mais c'est sûr que dans l'histoire ancienne, la vie se déroulait essentiellement dans les maisons. Mais ceux qui avaient les moyens construisaient toujours plus grand et, c'est vrai, réunissaient le dimanche matin parfois plusieurs églises de maisons. Maintenant, Catherine, elle fait construire ces édifices qui existent encore aujourd'hui sur le modèle du tabernacle. Et pour moi, ça a faussé les choses. Ça veut dire qu'on reprend aussi toute la question des prêtres et qui sont devenus en fait les évêques qui ont pris toujours plus d'importance. Et je le regrette, alors on ne va pas démolir nos temples, s'il vous plaît, bien sûr, mais toutes les églises, y compris évangéliques, sont construites sur le modèle du tabernacle. Et des fois, le dimanche matin, j'aurais des fois envie d'inverser les choses, de dire, écoutez, les prêtres et les prêtresses, vous allez dans le cœur, parce que c'est vous qui êtes devant, et nous sommes derrière ce qu'on appelle des ministères, mis à part pour vous aider à être de bons prêtres et de bonnes prêtresses, voyez. Et donc, on a suivi quelque chose qui n'était pas fondamentalement prévu par Jésus, mais on ne va pas démolir nos églises, on est d'accord. Mais retenez quand même bien, vous êtes des prêtresses et des prêtres. Et si on comprenait mieux cela, je pense que notre industrie ne serait pas partie, je pense qu'on ne serait pas en train de couler à tous égards, parce qu'on prierait les uns pour les autres, on prierait pour que les gens soient bénis dans leurs travaux, dans leurs vignes. Je viens d'apprendre qu'il n'y a plus de beurre, il n'y a plus assez de beurre en Europe. C'est inimaginable, alors qu'on a imposé aux agriculteurs de faire moins de lait. Et ils ont même dit qu'il n'y avait plus assez de vaches en Europe pour produire du beurre. Ben bravo, je dirais, c'est... Où sommes-nous, voyez-vous, alors que nous devrions vraiment avoir une bénédiction dans tous nos travaux. Je continue. Alors, je ne peux pas faire verset par verset, parce qu'on en a pour des semaines. Et voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront au sujet de Jésus. On trouve cela dans Zacharie 12:10. Où le peuple d'Israël va lever les yeux et pleurer sur celui qu'ils ont percé. C'est quelque chose qu'on attend. Il y a déjà des juifs messianiques, on le sait, mais le peuple d'Israël a encore ce voile qui demeure sur ses yeux. Mais un jour, ils verront et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Et voilà maintenant au verset 9, « Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. » Croyez-moi, il n'était pas en vacances. Jean était aux mines de cuivre, et il existe encore aujourd'hui, j'ai vu moi-même ces anciennes mines de cuivre, et là, il y a eu beaucoup de persécutions. Mais une des plus grandes persécutions a eu lieu au temps de Néron, dans les années 54-68. C'est le temps aussi où l'apôtre Paul a été mort martyr, mais au temps maintenant de Jean, qui est à Patmos, nous sommes plutôt au temps de Nerva et de Trajan. Et malgré tout, la persécution était latente, parfois beaucoup plus forte que d'autres, mais il y a quand même eu des églises possibles, il y a quand même eu parfois des conciles, donc il n'y a pas toujours eu que des temps de persécution. Et voilà Jean qui dit, c'est à cause de la parole de Dieu, à cause de cela que je suis à Patmos. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, on pense que c'est le dimanche. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis ces chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme l'aine, blanches comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme du bronze, qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grands eaux. Et cela continue. Il sortait de sa bouche une épée aiguë à deux tranchants. Et cette épée aiguë, on la trouve effectivement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Je pense que nous avons tous besoin, et j'ai besoin moi aussi, de cette épée de la parole de Dieu qui pénètre jusqu'à séparer l'âme des os, qui peut pénétrer en nous si profondément. Vous savez, des fois, nous sommes troublés, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est faux, on a mal à son âme, et la parole de Dieu peut nous aider à séparer ce qui est juste de ce qui est faux, à séparer ce qui est inutile de ce qui est utile. Et donc, cette parole de Dieu, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Nous le verrons en Apocalypse 19 encore beaucoup. Et c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, c'est lui qui tient les clés. Qui sommes-nous, des fois, pour dire que telle ou telle personne serait perdue ou sauvée, qui sommes-nous? C'est lui qui tient les clés du séjour des morts, c'est lui qui est même allé évangéliser quand il est mort, ou à la génération, entre autres, de Noé. Et donc, il est dit, quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Et ici, j'y reviendrai, mais croyez-moi, les anges sont une réalité. On les trouve partout dans l'Ancien Testament. On les trouve, bien sûr, au temps de l'annonce de la naissance de Jésus. On le trouve à tout moment des apôtres, dans toute l'histoire de l'Église, et je n'ai pas le temps d'en rendre témoignage, mais j'ai été aidé plusieurs fois par des anges qui peuvent prendre forme humaine avec des vêtements, des personnes jeunes, âgées, en Afrique, en Suisse aussi. Donc, ces anges des églises, pour moi, c'est une réalité. Et je reprendrai peut-être cette question des anges encore, mais voilà. Et maintenant, lettre aux sept églises. Alors il commence, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je le sais. Tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais vous dire, l'essentiel de la foi chrétienne est une question d'amour de Jésus. C'est fondamental. Son premier amour, son amour pour le Seigneur. Entretenez cet amour pour Jésus par la parole, par la prière, par la communion fraternelle, par l'Église. Et dites-le au Seigneur, que vous l'aimez. Non pas comme Maurice Ré nous disait, il avait présidé un service funèbre dans le canton de Vaud, et le mari qui perdait sa femme a dit « Je l'ai tellement aimé, j'ai failli lui dire une fois. » Le Seigneur cherche des adorateurs et aimant le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, l'éternel Dieu. Et donc c'est très triste quand il doit être dit que ils ont perdu leur premier amour. Mais il y a toujours une consolation. Il y a toujours que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je reviendrai sur cette question de l'arbre de vie. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il est au début, mais au début, à cause de la chute, il a été fermé. Mais on va le retrouver tout au long. On le trouve 9 fois. Dans l'Apocalypse, et naturellement, on va retrouver cet arbre de vie qui va, même pour la guérison des nations, tout à la fin. Donc, il y a toujours cette espérance que dans cette Église, où d'une manière générale, on a perdu ce premier amour, mais il y a quand même des vainqueurs, il y a quand même ceux qui persévèrent, il y a ceux qui tiennent le coup, qui aiment le Seigneur, et ils auront droit à l'arbre de vie. Et puis voilà cette fameuse Église, la deuxième, l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Les calomnies de ceux qui se disent juifs, etc. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. » C'est très impressionnant, puisque je suis convaincu. D'ailleurs, dans la troisième épître de Jean, il est dit littéralement que Jean envoie une lettre. J'ai écrit quelques mots à l'Église. On ne sait pas exactement de quelle Église il s'agit, mais on sent que Jean n'en est pas à sa première lettre. Sauf que là, il reçoit vraiment de la part du Seigneur et de l'ombre les lettres qu'il lui a écrites, et je suis persuadé que la lettre, en tout cas un résumé ou une lettre complète, a été envoyée par Jean sur ordre du Seigneur, et que Polycarpe a lu cette lettre, et que Irénée a lu aussi cette lettre, j'en suis persuadé. Et puis arrivent différentes églises, on ne peut pas toutes les prendre, il y en a malheureusement qui ne sont pas de bonnes églises. On retrouve l'église de Philadelphie, au chapitre 3, qui est aussi une église sans reproche. Ça veut dire que c'est possible. Nous sommes encore pécheurs, hélas. Mais c'est possible d'avoir une église qui plaît au Seigneur. C'est possible d'avoir une vie qui plaît au Seigneur. Il ne faut pas toujours être courbé dans le sens que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, et puis Dieu ne doit pas forcément m'aimer, et puis il attend de moi plus, et puis etc., etc. Non, c'est possible de plaire au Seigneur et il sait nous le dire aussi. Et donc, dans cette église de Philadelphie, il y a cette parole magnifique au verset 10 du chapitre 3. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Or, le mot « épreuve », « pyrasmos », c'est à la fois la tentation et l'épreuve. C'est le même mot, pyrasmos, en grec. Ça veut dire que c'est très voisin entre la tentation et l'épreuve, parce qu'on le sait, dans l'épreuve, il y a aussi une tentation. Et c'est très beau, parce que tu as gardé ma parole, gardé la parole du Seigneur, chers amis. Aimer cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est le seul élément dans toute l'histoire de l'humanité qui est éternel. Il y a du carton, de l'encre, bien sûr, mais il n'y a rien d'autre sur la terre qui est éternel. La parole de Dieu, bien sûr, le Seigneur, l'Esprit Saint, Dieu le Père, mais c'est quand même impressionnant de penser que nous avons une parole dont ne devrait disparaître même pas un seul iota. Et il y a cette dernière église de Laodicée, et là c'est dramatique. Parce qu'il a dit, tu n'es ni froid ni tiède, parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant. Tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça, c'est dramatique. J'ai envie de dire, c'est un peu notre société. Ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien. Et ils ne savent pas qu'ils sont pauvres et nus. Mais ce qui est impressionnant avec cette église de Laodicée, c'est que dans l'épître aux Colossiens, Paul écrit aux Colossiens comme il écrit aux Éphésiens. Je laisse la question de Paul aux Éphésiens et de la lettre aux Éphésiens, mais je prends celle de Laodicée. Parce que Paul, dans les Colossiens, dans les grandes lignes, il est vraiment content de l'Église. Là, par-ci, par-là, des problèmes à régler. Mais dans l'ensemble, il trouve que c'est quand même de bonnes églises. Et donc tout un enseignement. Et à la fin des Colossiens, il dit, quand vous aurez lu cette lettre, faites-la lire aussi par l'église de Laodicée. Et c'est dramatique parce que Paul écrit aux Colossiens dans les années 60, et nous voilà maintenant à la fin du siècle, 30-40 ans plus tard, et l'église de Laodicée est devenue tiède. Ça doit nous faire réfléchir. Et d'ailleurs, toutes ces églises dont nous parlons ce soir, bien sûr, il y a des communautés chrétiennes aujourd'hui dans chaque église, on est d'accord, mais quand même, ces églises ont disparu. Et toutes ces églises se trouvent dans la Turquie actuelle, près de la Grèce. Vous voyez, donc c'est l'ouest de la Turquie, dans un mouchoir de poche, en fait. Or, ça doit nous faire réfléchir. Je prêchais sur ce qui s'est passé entre le temps de David et Salomon et la destruction de Jérusalem. C'est impensable. Personne ne pouvait imaginer que là où Dieu avait mis son nom, que le temple serait détruit, personne, les murailles encore moins, mais surtout le temple. Or, il a fallu 400 ans. Il m'arrive de dire, 400 ans après la Réformation, où sommes-nous ? Nous sommes plus dans le wokisme dans notre société que dans la parole de Dieu. Et nous devons réfléchir, parce qu'il y a des descentes personnelles et des descentes de familles, des familles et des descentes d'églises qui ne vont pas bien du tout, et des choses peuvent se détruire en peu de temps. Mais le reproche principal, ça revient aussi à « tu as perdu ton premier amour ». Et quand on perd son premier amour, eh bien forcément, on devient relatif, on devient tiède. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Est-ce que c'est vraiment écrit cela ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Est-ce que... Voilà. Et il n'en faut des fois pas plus. J'aimerais vous encourager à garder ce feu intérieur. Et il est dit dans cet épître à Laodicée, cette parole que vous connaissez bien, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe au verset 20 du chapitre 3. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très bouleversant. Jésus qui veut manger avec nous. Le Seigneur qui frappe. Et vous savez que Rembrandt, dans son tableau exceptionnel, il n'a pas mis de serrure, en fait, du côté de Jésus. En fait, lui ne force pas la porte, c'est à nous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus est très poli, il passe son chemin. Avec les disciples d'Emmaüs, il passe son chemin. Mais les disciples, ils ont été tellement bouleversés qu'ils disent « Reste avec nous, Seigneur. Le soir descend, reste avec nous. » Et nous avons cette tendance, bien sûr, à ne pas croire que le Seigneur nous aime au point de vouloir manger et souper avec nous. C'est quelque chose de très bouleversant. Il vous aime personnellement. Il a du plaisir avec vous. Il a du plaisir à manger avec vous. Et je pense à ce fameux je trouve plus son nom, je vieillis. C'est... Comment est-ce qu'il s'appelait ce français qui avait des sketchs extrêmement beaux, dites-moi vite.
Raymond
DeVos. Et qui dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, « Madame, vous avez vu ce qui est écrit ?»« Quoi ?»« Jésus revient !»« C'est écrit là !»« Jésus revient !» Son frère était pasteur. Et ce sketch, essayez de l'écouter encore. Il est extraordinaire. Et puis, il continuera en disant, « Mais on va toujours parler du petit Jésus, mais Jésus a frappé à ma porte. Devinez qui vient. C'est le Seigneur qui vient manger chez moi. Et c'est un grand Seigneur. » Vous voyez, c'est quelque chose qui nous parle. Et voilà, Jésus aimerait manger avec nous. Et c'est quelque chose de très bouleversant. Accueillez ce Seigneur qui vous aime. On ne fait pas tout juste, bien sûr, mais ce qu'il attend, c'est notre cœur. Il attend notre amour, et cet amour qu'on a aussi à transmettre au sein de l'Église, parce que notre monde manque d'amour. Je me souviens, Fredo, dans un camp de ski, j'étais bien jeune, et tu disais, voilà, on vient au monde avec 3 vases vides, tu te souviens. Et ces vases vides, un doit être rempli par l'amour de la maman, l'autre par l'amour du papa, et le troisième, sauf erreur, par l'amour de la société, si je ne me trompe pas. Et tu dis, voilà, on vient au monde avec des vases vides, mais il y a des mamans qui attendent un bébé pour remplir leur vase. Et puis les gens sont en train de courir partout en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'amour? Et Dieu est amour. Et Dieu veut nous combler. Dieu veut faire déborder nos vases. C'est la Samaritaine, n'est-ce pas? Et ça veut dire que nous devons être vraiment un peuple d'espérance, un peuple rempli de la grâce et de l'amour du Seigneur. Maintenant, en Apocalypse 4, je me dépêche, il y a quelque chose de... Tout est merveilleux. Bien sûr, il y aura... Les sauts, les trompettes, les coupes, vous verrez. C'est pas si grave, dans un sens. Et d'autant plus que nous y sommes déjà quelque part. Donc ça veut dire on va vers le meilleur. J'en suis convaincu. Alors, il est dit ici au chapitre 4, après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette, la première voix que j'avais vue. Et là, c'est Jean, il va entrer dans quelque chose du mystère de Dieu. Et j'aime beaucoup cela. Ça veut dire qu'on n'y comprend rien, mais il y a un trône, il y a des anges, il y a des vieillards, il y a tout un monde, il y a des sièges, et puis il y a des anges, et ça fait penser à Ézéchiel 1, où il y a des roues qui tournent, des yeux partout. Je trouve ça grandiose. On ne comprend pas vraiment. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le trône de Dieu existe. Il y a une réalité, c'est que le trône de Dieu existe. La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, on le verra dans l'Apocalypse 21. Donc elle existe. Les anges, la chorale de Noël, elle existe. Et puis l'armée céleste avec Élysée. Quand le serviteur dit « Nous sommes perdus, les Assyriens sont là, tu vois pas, nous sommes perdus. » Et Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux et voit l'armée du Seigneur. Mais elle existe, cette armée. Elle existe encore aujourd'hui. Et puis, l'enlèvement d'Élie, c'est bouleversant. Char d'Israël et sa cavalerie. La vision d'Ésaïe, Ésaïe 6, c'est très bouleversant, mes amis. Moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas une sorte de fantaisie spirituelle que de temps en temps s'asseoir bien sur votre chaise ou sur un fauteuil et puis vous passez dans sous votre regard intérieur, dans votre cœur, tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez l'enlèvement d'Élie, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez l'armée céleste. Voyez les anges, le cœur des anges. voyez le trône de Dieu, voyez toutes ces lumières, tous ces anges qui chantent, et moi, ça me fait un bien fou. Je passe presque tous les jours un moment où je file dans les cieux. Je prends cette porte ouverte et dans les temps qui sont les nôtres, avec tant de mauvaises nouvelles, tant de choses douloureuses, tant de choses tristes, sachez que le royaume des cieux existe. Sachez que la nouvelle Jérusalem est là. Sachez qu'il y a des myriades d'anges. Bien sûr, il y a des puissances mauvaises, nous en parlerons aussi. Mais Paul dit dans les Colossiens, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il a dit qu'il s'est levé pour le martyr d'Étienne. Est-ce que Jésus a pu s'asseoir depuis lors, alors qu'il y a tant et tant de persécutions? Les derniers chiffres viennent de tomber. 380 millions de chrétiens sont persécutés. Et le nord du Nigeria a connu l'année passée le maximum de chrétiens tués pour leur foi, c'est-à-dire plus de 1000 personnes. Et certainement qu'on n'a pas les données de toutes les églises persécutées. J'ai eu le privilège d'aller, il y a quelques années, en Chine, visiter des églises persécutées et apporter des bibles qui, en général, étaient déjà là par la contrebande. Nous sommes allés juste sur la frontière nord-coréenne. J'ai été à quelques centaines de mètres sur un pont détruit. Visiter des églises jusque dans le nord de la Mandchourie. J'ai vu des chrétiens qui louent le Seigneur, qui n'ont rien, qui sont d'une pauvreté extrême. Pas partout. Il y a aussi, on a visité des églises dans des régions où c'était le dimanche matin, une belle église blanche avec une croix. On n'y comprenait rien du tout. Et on nous a dit, ici, toute la région, ils sont tous des chrétiens, les autorités aussi. Et puis, ailleurs, on devait aller avec de nuit, des petites lampes au pied, des informateurs. Mais d'avoir été dans ces pauvres maisons où j'avais presque de la peine à ouvrir ma Bible, tellement nous étions serrés, une soif de la parole de Dieu, et des gens qui écrivent, qui prennent des notes et qui reçoivent une Bible dans leur langue avec une reconnaissance infinie. Mais ce qui m'a bouleversé le plus, c'est la joie de ces chrétiens. C'est vraiment, et même, j'ai été très bouleversé aussi parce que partout, nous avons chanté en langue. Et j'ai pris conscience que ce chant des anges, ce chant en langue, était aussi quelque chose qui était donné au fond, à toute l'Église universelle. Et c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé et qui donne du courage. On a dit que le sang des martyrs était une semence de chrétiens. Et évidemment, c'est dramatique, la persécution. Mais je suis vice-président de Bible par Internet depuis la Fondation, nous avons déjà donné plus de 30 millions de bibles ou pourcents de bibles gratuitement. Et là où il y a le plus de demandes actuellement personnalisées, c'est l'Afghanistan. Il y a une soif de la parole dont on n'a aucune idée. Des gens qui font des kilomètres pour recevoir une Bible parce qu'ils ont compris qu'il y avait la parole de Dieu qui est vivante, qui fait de nous des chrétiens vivants, qui fait de nous une église vivante. Voilà. Je veux prendre note de vos questions. Bien sûr que nous irons de l'avant mercredi prochain et dans deux mercredis. Nous avancerons bien. Vous ne pouvez pas prendre chaque verset, bien sûr, mais il y a de quoi faire encore. Et voilà, j'aimerais prendre note de vos questions, que je peux répondre maintenant, peut-être que je répondrai la semaine prochaine, c'est pas pour dire que vous devez revenir, mais alors, je vous écoute, oui.
Vous avez parlé tout à l'heure de la reine de Saba.
Oui.
Et vous avez dit que c'était la reine Hatshepsut.
Oui, c'est la reine Hatshepsut. Alors, je vous inviterai pour cela, si vous avez un peu de temps, vous commandez les livres de Velikovsky, Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky était un ami personnel d'Einstein. C'était un psychiatre russe qui a passé toute sa vie à fouiller le monde entier pour trouver des manuscrits. Et tout ce qu'il écrit, c'est à partir de manuscrits. Et c'est un des derniers qui a rencontré Einstein avant sa mort. Et quand Einstein est mort, il avait sur son bureau les livres de Velikovsky. Et Velikovsky, entre autres, a remis en place une erreur de 600 ans dans le calcul des pharaons et des empires du pharaon. Parce qu'il y a une différence selon la chronologie officielle de beaucoup d'historiens et d'égyptologues. Pardon, il y a une différence de 600 ans avec l'Ancien Testament. Ce qui fait sourire beaucoup d'historiens en disant que l'histoire de la destruction de Jéricho, etc. Or, il a trouvé des manuscrits où des pharaons ont une correspondance avec le roi Akkad, par exemple. Et il explique aussi, à partir d'une comète, le phénomène qui a détruit l'armée des Assyriens au temps d'Ézéchias. Mais il a mis à jour des choses extrêmement précises, des manuscrits qui montrent que c'est la pharaone Hatshepsut. Parce qu'il y a des bas-reliefs en Égypte qui existent encore aujourd'hui qui montrent ce qu'elle a apporté à Salomon et qu'on trouve dans l'Ancien Testament et aussi ce qu'elle a reçu. Et je dirais que avec un tel faste qui a eu lieu, là, je vous le dis, Velikovsky met à jour avec beaucoup d'autres choses, mais j'ai envie de dire, c'est un des plus grands apologètes de l'Ancien Testament et du temps des rois. Et c'est des livres, il y a trois livres, mais vous êtes fatigué des fois parce qu'il vous donne des éléments sur 20 ou 30 pages. Dites, bon, j'ai compris, c'est bon, passons plus loin. Mais il a fouillé, c'était un savant, vraiment un savant. Et par exemple, il a trouvé des manuscrits en Amérique du Sud qui correspondent exactement au temps où Josué a arrêté le soleil. Beaucoup disent, bon, ça c'est de la folie pure, il ne faut pas prendre la parole de Dieu au pied de la lettre. Or, il y a des manuscrits qui montrent qu'il a fait nuit presque tout un jour, à la même époque. Et donc, ces livres sont plus connus, je ne sais pas pourquoi, mais si quelqu'un aime la lecture et aime fouiller ces choses-là, alors vous passerez de bonnes soirées d'hiver. Autre question. Alors, si tout est clair. C'est bon? Alors, il y a deux solutions.
Moi, je vois juste sur un commentaire, quand tu,
oui.
Tu es émerveillé par la vision qu'a eue l'apôtre Jean du ciel, quoi.
Oui.
Et moi, je suis très, très interpellée par la parole de Paul qui dit que vu que nous sommes morts en Jésus et ressuscités, nous avons notre siège dans les cieux.
Oui, oui.
C'est vraiment quelque chose que moi j'essaie de comprendre et puis d'y aller, quoi.
Oui.
C'est ce que tu fais aussi.
Merci.
C'est Paul qui dit ça.
Oui. Absolument.
C'est extraordinaire, cette parole-là.
Oui, moi je pense que nous sommes trop terrestres. Mm-hmm. Et il est quand même dit que nous ne sommes plus de ce monde. Et pourtant, Dieu, le Seigneur, nous y envoie. Il nous envoie comme prêtres et prêtresses. Donc, loin de moi, l'idée qu'on doit fuir dans une sorte de mysticisme. Mais quand même, redressez vos têtes. Et vous savez, Paul le dit dans les Corinthiens, il dit que nous portons la bonne odeur de Jésus, que nous sommes des lettres écrites, que nous sommes des flambeaux dans le monde, et que nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices. Entrez à la micro ou chez Aldi comme ambassadrice et ambassadeur de chez nous. Voyez ? Et je suis persuadé que des personnes perçoivent quelque chose qui est en moi. Mais pour cela, il faut qu'on prenne un peu cette habitude d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je peux vous dire que dans des temps quand même troublés, dans des temps où nous sommes malmenés à tous égards, où toutes sortes de problèmes de santé, de toutes sortes de problèmes qui arrivent dans nos familles, nous ne sommes pas dans des temps faciles. Mais plus nous pourrons, non pas fuir, mais prendre conscience que nous sommes déjà assis avec Christ. Et prendre conscience de ce monde qui existe. Voyez-vous, j'ai travaillé depuis 50 ans les questions science et foi. Et je suis en train de terminer un doctorat, chers amis, contre une résolution du Conseil de l'Europe. Je travaille en profondeur toute la question du siècle des Lumières, toute la question de ce rejet de la foi chrétienne au nom d'une certaine science. Mais je peux vous dire, c'est un émerveillement, en fait, de la parole de Dieu, c'est un émerveillement de voir comme les choses existent. Or, les scientifiques nous disent qu'on ne connaît que le 5% de la matière. On ne connaît, alors je suis émerveillé par les milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles et de soleils, à des milliards et milliards et milliards d'années-lumière, je ne crois pas un instant que ça a été créé il y a des milliards et des milliards et des milliards d'années. C'est simplement l'artiste Dieu qui, à la fin de sa création, signe et envoie les étoiles à des milliards d'années. Et donc les scientifiques n'ont pas tort quand ils voient le fond de l'univers à des milliards d'années. C'est une réalité. Et tous ces millions marchent depuis ce temps-là avec des étoiles qui font des autres étoiles et puis qui créent du plomb et puis du mercure et tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une certitude, c'est qu'on ne connaît que le 5% de la matière. Alors combien pèse la Nouvelle Jérusalem ? Elle est grande, hein ? 2000 km carré, cube. Et puis, l'armée céleste, les myriades d'anges, le trône de Dieu, cette vision, mais ça pèse très lourd. J'en suis convaincu, c'est une grande partie qui nous échappe complètement. Vous pouvez regarder en sortant le ciel, vous verrez deux, trois étoiles, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Mais il existe. Le Seigneur est retourné vers son Père. Et il reviendra de là pour établir son règne, son royaume, avec un millénium auquel je crois de tout mon cœur. Voilà, chers amis, c'est l'heure. Je vous souhaite une bonne nuit et peut-être à mercredi prochain. Merci.